revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Eric, bonjour Patricia.
Bonjour Frédéric.
Et bonjour à tous. Alors qu'hier soir à Strasbourg, entre 3500 et 5000 manifestants se sont rassemblés pour rendre hommage à George Floyd, dire leur refus du racisme et dénoncer dans le même temps les violences policières. Alors que de nouvelles actions sont prévues ce samedi dans plusieurs villes de France, alors que la justice vient d'ouvrir une enquête sur les propos racistes tenus dans la police, une enquête judiciaire qui fait suite à l'enquête journalistique de Street Press qui, jeudi, révélait que des milliers de fonctionnaires de police partageaient des messages et des montages racistes dans un groupe privé sur Facebook, alors que le ministre de l'Intérieur a lui-même saisi le procureur de la République. De nouvelles histoires, ce matin, viennent nourrir le débat. La première est à lire dans Ouest France, affiche nauséabonde au commissariat de Nantes. En l'occurrence, dans un bureau du rez-de-chaussée, où sont interrogés des suspects en garde à vue pour des délits mineurs. Un bureau donc où se succèdent les officiers de la police judiciaire, de même que les avocats. Et c'est un avocat qui a eu la nausée devant le détournement de la couverture de Tintin au Congo. Sur le pastiche, Tintin est noir, et on a modifié le titre, c'est Tintin au Congo de nuit. Comme pour signifier que la nuit, tout le monde est noir. Et ce n'est pas la première fois que ces mêmes bureaux hébergent une affiche de Stono. Il y a quelques mois déjà, l'émotion des avocats en coulisses avait conduit à faire dépunaiser un autre détournement. Cette fois, on y voyait une barque chargée de migrants et le titre c'était « Le Congo chez Tintin ». On dira qu'il y a comme une petite obsession sur le sujet dans ce bureau. Le patron de la police de Loire-Atlantique reconnaît d'ailleurs son détour une connotation raciste. Mais malgré l'enquête administrative diligentée, l'auteur de l'affiche n'a pas été identifié et l'on ne sait pas non plus pourquoi personne n'a réagi, personne n'a été choqué dans ce service du commissariat central de Nantes. Mais il y a plus grave, c'est la deuxième histoire.
Et elle est à lire sur Mediapart.
Et sur le site Le Doc. Et c'est la mort d'un homme que nous racontent les deux journaux en ligne. Que s'est-il réellement passé le 8 avril à Béziers ? Ce jour-là, Mohamed Gabsi, 33 ans, est décédé après une violente interpellation par trois policiers municipaux lors d'un contrôle lié aux mesures de confinement. Avant-hier, dans Midi Libre, la sœur de la victime, Ouda Gabsi, a dévoilé les conclusions de l'autopsie selon lesquelles son frère est décédé par asphyxie. Asphyxie provoquée par les gestes des policiers. Ces derniers l'ont menotté puis plaqué au sol sur le ventre pendant plusieurs minutes. Il a ensuite été transporté vers le commissariat à l'arrière d'un véhicule, toujours menotté, toujours sur le ventre, et avec un des policiers assis sur lui. Hier, le procureur de la République s'est empressé de préciser les choses dans un communiqué, signalant que le rapport de toxicologie faisait état d'une prise massive de cocaïne. Réaction ulcérée de la sœur de Mohamed Gabsi. Certes, il a eu des problèmes avec la justice et avait une dépendance à la cocaïne, mais est-ce une raison pour être tué lors de son interpellation qui lui a fracturé la thyroïde, demande-t-elle. Car c'est cela que met en avant le rapport d'autopsie qu'ont pu consulter Le Doc et Mediapart, une asphyxie provoquée à la suite d'un appui maintenu et appliqué avec une force certaine, soit avec le poing, soit avec le coude, soit avec le genou. Un genou sur le cou, qui bien sûr n'est pas sans rappeler une autre histoire. Une jeune femme a d'ailleurs assisté à la scène et filmé une partie des faits. Elle garde en mémoire les mots de Mohamed Gabsi. « Au secours, à l'aide, ils veulent me tuer. » Il était, dit-elle, entre les mains de la police censée le protéger. Et en fait, on assistait à son décès. Lorsqu'ils ont fermé la porte de leur véhicule, ils ont forcé parce qu'une partie de son corps dépassait. Mais Mohamed Gabsi ne réagissait déjà plus. C'était donc le 8 avril dernier à Béziers, dans l'Hérault.
Et c'est un tout autre sujet qui fait ce matin la une du Figaro et de Libération.
Le même sujet. Après le Covid, l'envie de vivre à la campagne, titre le quotidien de droite. Ce qui donne dans le quotidien de gauche, besoin de verre, envie de toi. Besoin de verre, envie de toi, T-O-I-T, explication de Libération. La pandémie et le confinement ont ébranlé les Français au point que certains citadins rêvent de tout quitter pour aller vivre à la campagne. Explication du Figaro, éprouvé par le confinement ou séduit par leur séjour prolongé en milieu rural, de nombreux citadins veulent sauter le pas. Dans l'édito du Figaro, Étienne de Montetti cite Jules Renard, lequel disait que la campagne se prête à toutes les divagations du rêve. Dans l'édito de Libération, Laurent Geoffrin invoque le rêve d'Alphonse Allais, bâtir les villes à la campagne. Si l'on en croit les deux journaux, on serait donc aux prémices d'un exode urbain de nombreux citadins, notamment parisiens, ayant décidé de concrétiser de vieux projets déménagement pour aller enfin vivre au vert dans certaines entreprises. La mise en place massive du télétravail pourrait bien d'ailleurs faciliter ces départs, une aubaine pour le tissu économique de nos villages. Se réjouit un édile normand, le maire de Belle-Forêt-en-Perche. C'est très joli, Belle-Forêt-en-Perche, pour l'heure cependant. En dépit du boom des consultations, d'annonces, de ventes, de maisons, les agences immobilières ne constatent aucune envolée concrète des achats.
Et puis dans le Parisien, on nous parle des vacances.
Et l'on nous parle de la star de l'été. Ce n'est pas vous, Patricia, pas vous non plus. Eric, non, c'est le camping-car. La France est le pays européen où ce mode de tourisme est le plus en vogue. Et après les deux mois de confinement, les camping-cars auront plus que jamais le vent en poupe dans les deux mois qui viennent, assure le journal qui nous propose le témoignage d'une famille de nouveaux convertis, Clémentine et Franz, qui avec leurs enfants vivront donc leurs premières vacances sur les routes, un périple de 5000 km à travers le pays. Le rapport prix-plaisir est imbattable, assure Clémentine, en reconnaissant que pendant longtemps, elle trouvait que le camping-car avait plutôt un côté bidonchon. Enfin, toujours dans le Parisien, une info amusante concernant les masques. Le maire du Vésinet en avait commandé 15 000 pour les habitants, des masques lavables avec des tissus à motifs. Surprise des habitants en découvrant les 10 motifs. Sur certains, ce sont des oiseaux, des arbres, des cerises, des étoiles, mais sur d'autres figures, des feuilles de cannabis. Alors pour info, la représentation de produits stupéfiants est illégale et ceux qui les portent, ces masques, risquent gros 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende si jamais ils sont interpellés. Habitants du Vésinet, gaffe à vous.
Allez, faites tourner les masques et la revue de presse de Frédéric Pommier. À demain, Frédéric.